Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. On a pas mal de questions pour vous. On va essayer d'en prendre quelques-uns, mais juste peut-être avant que Monsieur Derrissard nous quitte, s'il n'est pas encore parti, parce que ah, j'ai l'impression il est déjà parti.
Non, non, je suis là, je
Ah,
suis
vous
là.
êtes là. Bon, bah super. On peut peut-être prendre une question pour vous avant que vous ne partiez. Amandine, je crois que tu avais une question.
Oui, tout à fait. On a eu plusieurs questions pour savoir quelle était la place de l'agroécologie dans la ferme. Est-ce qu'elle est encouragée, pratiquée et dans quelles activités?
Oui, elle est à la fois encouragée et pratiquée. On est même en train aujourd'hui de finaliser un accord avec le GIP Transition, qui est le groupement d'intérêt public Transition en Occitanie, pour devenir laboratoire d'innovation territoriale en agroécologie en Occitanie. Donc elle est évidemment au quotidien, elle est liée à des partenariats techniques. On fait des essais, des expérimentations. On travaille donc bien sûr sur les cultures, mais également sur le bien-être animal, son alimentation. Donc, elle fait complètement partie de notre stratégie.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une deuxième question?
Bien sûr, ce n'est pas les questions qui manquent. Est-ce que vous auriez un profil social de vos clients ou est-ce que vous arrivez à toucher un peu toutes les catégories sociales à travers vos actions?
Non, enfin, on n'a pas fait d'études très approfondies, mais on touche toutes les classes sociales, hein. On a 5 magasins, comme vous le disiez, donc les magasins dits urbains, Figeac, on touche des catégories plus cadres, on va dire. Et puis nos magasins ruraux, on touche les agriculteurs, les habitants. Non, non, il n'y a pas de distinction. On n'est pas une épicerie fine, hein. Pas du tout.
Merci beaucoup. C'est vrai que ces questions reviennent souvent hein, sur est-ce que finalement l'agriculture durable peut nourrir un maximum de personnes ou est-ce qu'elle reste réservée et comment justement sortir de ce cantonnement entre les consommateurs qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est tout l'enjeu évidemment.
Bien sûr.
Et donc, on a compris que vous travaillez aussi dans le cadre du PAT avec la collectivité locale
Exactement.
sur cet axe-là aussi.
Exactement. Oui.
Ouais. Donc,
Oui, c'est bien l'enjeu, hein. C'est que l'alimentation de qualité, ça soit pas simplement pour les apiphyses, évidemment. Oui, il y a cette question-là. Alors nous, on réduit quand même pas mal les coûts puisque on est notre propre plateforme alimentaire et on a notre propre logistique, mais ça n'empêche effectivement que ça a un coût additionnel et on le sent bien hein, quand le pouvoir d'achat baisse un peu, bah les gens vont plutôt aller chez Lidl, hein, c'est clair.
Merci beaucoup. On va passer aux questions qui nous ont été posées, notamment pour Monsieur Koulibaly, mais qui peuvent rejoindre aussi celles qu'on pourrait vous poser. Il y a des questions sur le lien avec la commande publique, notamment. Et comment la commande publique et notamment les cantines scolaires, c'est vrai que c'est un sujet dont on a déjà parlé aussi au CFSI, comment elle peut encourager et servir de levier pour le développement des pratiques qui tendent vers la transition.
Merci, merci beaucoup. Ah, ok. Non.
Je vous en prie, Monsieur Koulibaly, comme ça on alterne.
Non, non, non. Non, non, non. Que lui, parce que lui, il part, il n'y a pas de souci. Moi, je prends
D'accord.
la parole. Non, il n'y a pas de souci.
D'accord, merci.
Non, mais évidemment, c'est un fort levier. Donc, nous, on répond aux appels d'offres et donc, on fournit évidemment quelques cantines. Mais je dois avouer que nous, on veut valoriser l'ensemble, par exemple, de la viande de nos éleveurs. Certains sont en bio, d'autres ne le sont pas. Donc, dans les cahiers des charges, il y a souvent cette dénomination. Et donc, on en arrive à des aberrations. On préfère faire venir la viande de Bretagne bio que de la vache qui est à moins de 5 km de la cantine. Donc là, il y a un vrai sujet. effectivement, il y a un vrai sujet. Les politiques publiques doivent certainement évoluer autour de ça. Voilà.
Monsieur Koulibaly, vous voulez compléter pour le contexte africain, enfin ouest-africain ?
Oui, oui, merci beaucoup. Je pense que la question des achats publics est une question sur laquelle nous sommes très sensibles et sur laquelle nous sommes en train de faire un travail de réflexion. Et on a même proposé un projet de loi au Conseil national de transition pour qu'ils votent une loi pour les achats institutionnels. Parce que nous pensons que c'est un moyen vraiment de soutenir les petits exploitants. Aujourd'hui, ça existe, hein. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas les petits exploitants qui en profitent réellement. C'est-à-dire, ce sont des commerçants, des groupes de commerçants qui remportent les marchés d'achat institutionnel. L'État met beaucoup d'argent pour nourrir les hôpitaux, l'armée. Donc, il y a quand même il y a de l'argent public qui est mis. Donc, cet argent normalement devrait, en toute intelligence, servir à soutenir le développement de l'agriculture des petits producteurs. Donc, nous, on est en train d'y travailler avec la Chambre d'agriculture. On est en phase totalement là-dessus. On a rédigé une demande qu'on a déposée formellement. Mais pour l'instant, comme le Mali est dans une situation très compliquée, donc on ne sait pas si on va aboutir, mais si on arrivait à faire voter un projet de loi là-dessus, pour institutionnaliser, pour que ce ne soit pas sur le bon vouloir d'un tel ou tel, mais que ce soit dans une loi, que l'État soit obligé d'acheter avec les organisations des petits producteurs, je suis sûr que ça peut amener ça peut être une vraie bouffée d'oxygène qui peut soutenir l'agroécologie. Parce que réellement, le fait d'acheter des légumes sains avec des producteurs certifiés SPG ou autres, je pense que ça, c'est des choses qui doivent être possibles aujourd'hui. Ça peut vraiment les aider. Ça peut être la même chose pour les céréales ou d'autres productions. Voilà, donc on y travaille en tout cas.
Merci beaucoup. Deux questions, l'une qui va un peu dans le même, qui est du même ordre d'idée, c'est est-ce que l'agriculture durable est possible à grande échelle en Afrique de l'Ouest ? C'est une question qui revient. La deuxième, c'est il y a une discussion vraiment dans le chat à ce sujet sur la place et les liens entre les pays occidentaux et l'Afrique de l'Ouest pour encourager, en tout cas faire en sorte que l'agroécologie puisse se développer réellement et que les paysans puissent en vivre en Afrique de l'Ouest.
Ok, l'agroécologie, l'agriculture durable à grande échelle. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire grande échelle, parce que on vit à l'échelle où on est. Vous savez, les producteurs en Afrique, l'agriculture est surtout structurée dans des familles, c'est-à-dire dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce sont des familles qui font l'agriculture. C'est des exploitations agricoles familiales où il y a souvent beaucoup de personnes et avec quelques hectares. Et donc, les gens travaillent ensemble, ils mangent ensemble. Et les revenus supplémentaires qui sont dégagés servent à faire la santé, l'éducation, tous les frais de la famille. Donc, c'est une forme de gestion communautaire qui est très présente chez nous. On ne dit pas que ça ne s'effrite pas, mais c'est surtout ça qui est présent dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, souvent, vous savez, moi, je connais des familles de 80 personnes en Afrique qui sont encore, qui mangent, qui travaillent ensemble. Donc, s'ils ont 100 hectares, est-ce que quelle est l'échelle? Est-ce que c'est une grande ou une petite échelle? Je ne sais pas. Donc, si une famille de 5 personnes à 3 hectares, est-ce que c'est une petite... Est-ce que c'est quelle échelle? Pour moi, je ne pense pas que l'échelle soit importante. Ce qui est important, c'est que les gens doivent pouvoir vivre de leur travail. Moi, je sais en Europe, parce que je connais bien l'Europe, j'ai discuté avec plein d'agriculteurs en Europe. Il y a des maraîchers qu'on pourrait qualifier de petits maraîchers qui ont un hectare, mais qui vivent avec un hectare ou un peu plus. Mais pendant ce temps, je pense qu'il y a des grands producteurs céréaliers qui ont des centaines d'hectares qui ne sont pas rentables. Donc, pour moi, la question, ce que nous faisons doit nous nourrir là où nous sommes. Et ce n'est pas la taille de l'exploitation. Donc, il y a cette conception de grandes exploitations. C'est ça qu'on veut nous imposer souvent en Afrique. Donc, c'est dans ça qu'il y a des pressions pour nous pousser vers ce modèle de production où on va peut-être chasser les petits exploitants pour mettre des privés, ce qu'ils appellent des privés. Parce que c'est maintenant, dans ces dernières années, qu'on voit arriver ces groupes de gens qu'on appelle des privés, auxquels l'État même donne des grands moyens souvent pour prendre des terres qui appartiennent. C'est ça qu'on appelle l'accaparement des terres, qui a fait beaucoup de bruit et donc contre lequel nous sommes beaucoup battus. Donc, parce que ce n'est pas un modèle durable, ce n'est pas du tout ça la solution. Ça ne règle aucun problème de fond dans lequel nous sommes. Ça ne règle pas le problème de l'emploi, ça ne règle pas le problème de la sécurité et souveraineté alimentaire des pays, ça ne règle pas le problème de durabilité environnementale. Donc, alors, ça veut dire que c'est l'intérêt d'une minorité toujours qui est en train d'être mis en avant. Donc, pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Mais investir dans les petites exploitations agricoles de façon bien ciblée sur leurs vrais besoins, c'est ça que nous revendiquons.
Merci pour Merci. Votre réponse.
Et pour la partie, les relations...
Avec l'Europe.
Oui.
Bon, vous savez, les relations avec l'Europe, si je prends le côté institutionnel, c'est totalement déséquilibré. Nous, on n'a aucune initiative de nos politiques. Et c'est frustrant parce que nous n'existons pas. Et on nous oblige à copier des modèles de politique. C'est ça qui est désespérant. Nous, quel que soit le régime politique qui vient en Afrique, et c'est pour copier, ils viennent pour copier des modèles, ils ne viennent pas pour construire sur la réalité. Et c'est ça qui est à la base de tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui et de la guerre dans laquelle nous sommes. Donc il faut, pour moi, le côté, les relations institutionnelles doivent fondamentalement changer. Parce que l'Europe peut tout imposer, l'Europe et les États-Unis peuvent tout imposer en Afrique. Et ils le font tous les jours. Nous, on le vit dans notre chair. Peut-être que les hommes politiques qui prennent l'aide et les détournent et l'envoient dans leur compte en Europe... Et ils ne s'en foutent, mais nous qui sommes au bas de l'échelle politique, nous subissons ces mauvaises politiques, ces incohérences tous les jours. Donc, cette relation, pour moi, elle n'a aucune utilité, elle est dangereuse, et c'est elle qui a rendu dangereuse l'Afrique aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Comme si on parle de djihadisme ou autre, il n'y a pas de djihadisme, il n'y a que ça. C'est ça qui est le vrai djihadisme, c'est ça le vrai terrorisme, moi je dirais. Donc, il faut sortir de cela. Il faut des relations équilibrées entre les États. Dans le respect mutuel, dans le respect des choix stratégiques qui reposent sur la réalité. Donc, c'est ça, c'est cette relation institutionnelle auquel nous, on espère de tous nos voeux. Maintenant, si les autres types de relations, pour nous, il n'y a aucun souci, et nous travaillons avec nos homologues organisations paysannes en Europe, on a des échanges équilibrés, nous, on n'a pas de complexe devant un agriculteur ou bien une organisation d'agriculteurs en Europe. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci. Pour nous, on échange ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous. On fait des positions communes ensemble, souvent, on fait des déclarations, on fait des choses ensemble, on se rend visite, voilà. Donc, pour moi, là, il n'y a pas de problème. Mais le côté entre les institutions, entre États, vraiment est trop, trop déséquilibré. Il faut le changer si on veut véritablement que les choses avancent.
Merci, M. Koulibaly, pour ces précisions. On aura juste une dernière question pour conclure ce temps de la matinée. Vous parlez d'un changement institutionnel qui a besoin d'être opéré. Comment est-ce qu'on fait? Comment les citoyens, les consommateurs peuvent convaincre les politiques du Sud et d'Afrique de l'Ouest de s'engager et d'investir dans la transition des modèles agricoles?
Bon, c'est une question qui est très compliquée. Il faut continuer à se structurer, il faut continuer à se mobiliser. Plus on sera nombreux, je pense qu'un jour, on aura de l'impact. Il faut qu'on continue à construire ces alternatives au niveau local. Parce que pour moi, je ne crois qu'à ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on a construit au niveau d'une communauté, au niveau d'un village, si ça s'ancre bien, c'est définitif. Donc, c'est ça qui fonctionne. Mais au niveau sommet, c'est très compliqué. On peut très difficilement changer le sommet aujourd'hui parce qu'il est trop corrompu. Le système politique, il est totalement corrompu aujourd'hui. Et je ne sais même pas si on peut faire encore quelque chose pour le monde à ce niveau. Mais si on continue à structurer les choses au niveau local, au niveau des communautés, au niveau des terroirs, une prise de conscience, c'est vraiment un investissement en termes de temps, d'énergie très important, mais c'est ça que nous devons continuer à faire. Donc, quand cette prise de conscience va véritablement... Peut-être qu'on pourra, à travers des mots d'ordre, chasser ces mauvais politiciens qui entravent véritablement les politiques cohérentes. Donc, pour moi, c'est un travail qui va prendre encore des décennies, mais il faut qu'on continue à le faire. Moi, je ne vois pas d'autre alternative parce que je ne pense pas qu'aller crier devant le G7, G20 ou je sais pas, l'OMC ou je ne sais pas quoi va changer le monde. C'est pas ça qui va changer. Mais c'est des gens bien conscientisés au niveau des territoires, dans les villages, dans les villes aussi. Nouveaux consommateurs, il faut des consommateurs bien conscientisés. Donc tout ça, nous on a vu des associations de consommateurs qu'on a sensibilisés pour dire qu'ils sont d'accord avec les OGM. Donc c'est pour dire que il y en a du tout en Afrique. Hein. On a fait de la lutte ensemble. Tout d'un coup, la présidente sort pour dire que oui, qu'ils ne sont pas contre les OGM. Vous avez, donc, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc, il y a très peu de... Les convictions doivent être réelles. Les gens doivent avoir des vraies convictions et se battre pour, et créer vraiment des vraies dynamiques au niveau communautaire.